Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Avant d'attaquer l'épisode d'aujourd'hui, et pour bien débuter l'année, Audible, la plateforme d'Amazon, m'a proposé de créer un épisode exclusif sur mes vœux 2018. Donc la semaine prochaine, vous pourrez me retrouver sur Audible avec Joséphine Goub, la CEO de TechFoodgies, pour parler d'engagement social, puisque c'est mon vœu pour 2018. Je vous mettrai tous les liens, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux. Mais pour le moment, commençons un nouvel épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner. Donc bonjour à tous, je suis avec Thibaut de Saint-Maurice. Thibaut de Saint-Maurice, il est professeur de philosophie.
Toujours, ouais.
Toujours. Il est déjà venu sur ce podcast. On avait parlé de la dépendance au smartphone à l'époque. Et là, aujourd'hui, j'ai fait un podcast avec Maï sur le marketing et le mensonge. Mais j'aimerais avoir un aspect philosophique sur le désir et le mensonge. Parce que je pense qu'il y a cette idée que le marketing, c'est mal, ou que la communication ou la pub, c'est mal, qu'on manipule les gens. Et finalement, toi, tu as un point de vue philosophique que je trouve hyper intéressant sur ce sujet, autour de la manipulation et du désir. Alors, je ne sais pas par où commencer précisément, mais peut-être commencer par le désir chez l'humain.
Oui, alors en fait c'est un peu un sujet, une sorte de classique du programme de philosophie en terminale, mais effectivement le désir c'est une notion centrale. En fait, il y a une phrase que j'aime bien d'un philosophe qui s'appelle Gaston Bachelard qui dit « L'homme est une création du désir et non pas du besoin ». C'est-à-dire que si on raisonne juste en termes de besoins physiologiques, en réalité l'humanité elle n'est pas très très différente de bon nombre d'autres espèces animales.
On a très peu de besoins finalement, à part manger, boire,
oui,
dormir.
Oui, et qui sont finalement très peu spécifiques ou distinctifs. Mm-hmm. Voilà. En revanche, si on réfléchit en termes de désir, donc de cette capacité finalement à s'arracher d'une sorte de condition naturelle, physiologique, et d'aller au-delà, eh bien c'est là où il y a quelque chose de spécifique, d'humain, de proprement humain qui va se dessiner. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est hyper important, par exemple, quand la philosophie commence son histoire en Occident, donc la philosophie grecque, voilà, le désir est un sujet central. Et les fameuses sagesses antiques, c'est principalement, en gros, de l'outillage pour gérer, en fait, ces désirs, les connaître, distinguer ceux qui vont nous rendre malheureux, à coup sûr, ceux qui pourraient nous rendre malheureux ou heureux, et ceux qui nous rendront heureux à coup sûr. Épicure, par exemple, fait une distinction des désirs entre les désirs vains, ce qu'il appelle les désirs vains, et puis les désirs, bon, qu'il appelle naturels, mais qui sont en fait ceux qui vont pouvoir nous rendre heureux. C'est encore quelque chose qui est tout à fait pertinent. Donc il y a cette dimension centrale dans notre humanité, entre donc humanité et désir. Après, il y a une deuxième chose, et ça, c'est des problématiques qui apparaissent plutôt à partir du XVIIe siècle, et puis après XVIIIe et puis XIXe, avec des gens comme alors Spinoza, par exemple, dès le XVIIe, et puis des gens comme Freud et Nietzsche à la fin du XIXe. Ouais. C'est la révélation que, en fait, notre existence, c'est pas une sorte de ligne droite, c'est pas un long fleuve tranquille, et surtout que nous ne sommes pas que des êtres rationnels. Mmh. C'est la révélation que, en fait, notre vie, c'est une sorte de pulsation. C'est une pulsation au rythme, justement, de nos désirs. Par exemple, il y a un concept qu'on connaît chez Nietzsche qui s'appelle la volonté de puissance. eh ben, c'est en fait la volonté de puissance, c'est la définition même de la vie. Ça ne veut pas dire que c'est la volonté d'être le plus fort ou de dominer tout le monde. En fait, la vie, elle est volonté de puissance. Et la façon la plus simple de le comprendre, c'est de dire que la vie, c'est le désir. En fait, vivre, c'est désirer. C'est désirer de la nouveauté, de la rencontre, de la surprise, etc. Voilà. C'est le moteur même, en fait, de l'existence. Et puis, Freud, bah, j'en dis un mot, mais Freud est la révélation de tout un nouveau territoire de désir, qui sont les désirs inconscients, ce que Freud appelle les pulsions. Donc, en fait, on découvre une humanité qui est nettement plus tissée de désir, finalement, que de rationalité, enfin, je veux dire, l'agent rationnel, c'est une invention de l'économie, mais voilà, c'est
parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, fiable. Tu vois, on est dans une société où on est dans une, on a accès à tout, et donc il y a un vrai mouvement de, mais de quoi j'ai vraiment besoin? Et donc, tu vois, les gens se posent vachement de questions sur le bonheur, en particulier, en se disant, mais en fait, tous ces trucs qu'on essaye de nous vendre, on n'en a pas besoin. Et finalement, je vais essayer de m'extraire de ça. Ou par exemple, c'est vrai que quand tu connais des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, par exemple, ben, ils ont beaucoup moins de désir nécessairement, parce qu'ils peuvent, ils accèdent à tout. Donc, t'as moins de désir et du coup, ils sont moins heureux. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de désir et de bonheur. Comment les gens, ils jugulent ça, en fait? Comment tu gères ça en tant qu'humain?
En fait, je pense que c'est fondamental. C'est-à-dire que ce qui est fondamental, c'est d'apprendre à distinguer. En fait, on est souvent victime on prend souvent, c'est l'expression commune, ces désirs pour la réalité. Voilà, on est souvent victime de ces désirs ou victime de ce à quoi ils nous font aspirer. Je pense que ce qui est essentiel, et en tout cas pour moi c'est un geste philosophique essentiel, c'est la distinction. Par exemple, distinguer comme on vient de le faire entre désir et besoin. Et puis distinguer entre bien-être et bonheur. Voilà. Et effectivement, pour être heureux, on n'a pas besoin de grand-chose. On a tous fait ces expériences où on est avec sa famille ou avec ses amis, où on est à la fin d'un dîner, pas extraordinaire, mais tout va bien, tout s'est bien passé, on est avec ses proches, et voilà. Ou la naissance d'un enfant, qui est quand même une expérience extrêmement banale du point de vue de l'humanité, quand même, et en même temps toujours singulière du point de vue individuel.
Certainement.
Mais voilà quelque chose qui suffit à nous rendre heureux sans avoir des milliards de désirs à satisfaire. Donc, on peut distinguer bonheur et bien-être. Mais la vraie question, c'est de se dire, effectivement, aujourd'hui, on a une société de consommation qui nous donne des injonctions, en fait, non pas tellement à être heureux, ça va plutôt vers le développement personnel, etc. Mais du point de vue de la consommation, ça donne des injonctions à vivre confortablement, en fait. Une sorte d'injonction au confort. Sachant que le confort, c'est aussi avoir le truc de dernier cri, c'est, voilà. Bon, être super connecté, etc.
Avoir le wifi.
Vivre dans un confort matériel. Bon. Alors, là, c'est intéressant parce que on peut d'emblée considérer que, bah, c'est une illusion, que forcément on va se planter, etc. Et en même temps, on peut simplement en faire l'occasion de se demander, ben oui, après tout, je veux dire, de quoi j'ai besoin pour assurer ce confort-là? Pourquoi ça serait mal de me soucier de mon bien-être? Et oui, si je veux dire, si je peux être installé plus confortablement, si je peux avoir une vie plus douce, si je peux aussi ressentir des sensations agréables et avoir du plaisir dans la consommation d'objets, pourquoi non? Là où ça devient compliqué, c'est quand il y a une confusion entre bien-être et bonheur, par exemple. Mais à mon avis, tant qu'on est dans la conscience de cette distinction, c'est difficile de se sentir manipulé.
Ouais. Tant qu'à distinguer, on peut aussi distinguer plaisir et bonheur, je crois.
Absolument, absolument. Et là encore, il y a une suspicion un peu, depuis très longtemps, et puis c'est un peu rajouté aussi par une culture un peu judéo-chrétienne, mais il y a une suspicion à l'égard du plaisir. Et en même temps, qu'y a-t-il de mal à rechercher les sensations agréables? Il y a un principe qui court à travers toute la philosophie antique, qu'on appelle chez les philosophes antiques l'argument du berceau. C'est l'argument qui dit que les êtres vivants désirent naturellement le plaisir, recherchent naturellement le plaisir et fuient naturellement la douleur. Voilà, ça, on enfonce une porte ouverte. Après tout, c'est pas mal de le rappeler. C'est-à-dire que, oui, je recherche naturellement des sensations agréables. Quand il pleut, j'aimerais être à l'abri, voilà, et je fuis la douleur. Bon, dans ma consommation, dans la société de consommation dans laquelle on est, il y a une forme d'excitation infinie et de possibilité de recherche infinie de sensations agréables. Mais c'est pas parce que le truc est infini que je dois m'empêcher d'en profiter un petit peu, il me semble.
Et alors du coup, c'est quoi le rôle des marketeurs là-dedans? Parce que, tu vois, par exemple, si on prend l'extrême, tu vois, typiquement, naturellement, je pense aux voitures, donc Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, enfin peu importe.
On n'aura jamais.
Ces voitures qui sont extrêmement chères. c'est parce qu'ils sont pour moi le summum finalement où on peut prendre encore des objets qui sont encore plus inutiles, hein, mais tu vois, une voiture à l'origine, ça reste un objet qui permet d'aller d'un point A à un point B, comme un cheval ou comme un vélo, sauf que tu peux y aller plus vite, de manière plus confortable, etc. Après, bon, tu arrives à des niveaux de prix, par exemple, quand c'est ces voitures de luxe. Où est-ce qu'on positionne ça, alors, du coup? On est toujours sur le désir? Parce que là, on vous promet, on promet un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure avant d'enregistrer, qui est si t'as la voiture, t'auras la femme. Il y a un peu de ça, hein, chez l'homme, qui a une vision très machiste, mais.
En fait, sur cette question-là, quand on est vraiment dans cette consommation-là, il me semble que. Enfin, moi, je reviens toujours à une lecture qui est pour moi hyper féconde, c'est celle du sociologue Baudrillard, dans son livre qui s'appelle La société de consommation, 1968. Où il a une analyse qui pour moi est hyper puissante. En fait, ce que dit Baudrillard, il dit, il faut arrêter de croire que la consommation, c'est un système de consommation d'objets dont on aurait besoin. Il dit, la société de consommation, c'est un système de manipulation de signes.
Voilà. Oui, c'est ce signe ostentatoire.
Exactement. Mm-hmm. Et donc en fait, évidemment que...
Et signe de reconnaissance, du coup.
Voilà. Et évidemment que la Lamborghini, pour partir en vacances, je veux dire...
C'est pas la voiture la plus pratique.
Non, mais voilà. Et donc en fait, du point de vue, si on a une analyse strictement fonctionnelle en termes d'objet qui sert à quelque chose, la Lamborghini, elle va se retrouver disqualifiée assez vite. Il vaut mieux partir en Kangoo. Voilà. Bon. Et en même temps, pourquoi ça nous fait rire quand on dit en Kangoo? Parce qu'on a bien compris qu'au-delà de la voiture, il y a le signe qu'elle représente.
Bien sûr.
Et donc, voilà. Et en fait... Je reviens à ton point, c'est que quand on comprend que la consommation, c'est une manipulation de signes, eh bien, on comprend son lien avec le désir, en réalité. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas du tout que la publicité crée des besoins, installe des nouveaux besoins, etc. La publicité, elle a compris un truc. Elle a compris qu'on était des êtres désirants, des êtres de désir, d'aspiration, de frustration aussi, etc. Et la publicité, elle a simplement compris qu'on pouvait récupérer toute cette énergie pour la concentrer avec les signes, le langage et les codes adéquats sur tel ou tel produit, de luxe, pas de luxe, de distinctif ou pas distinctif, etc. Mais à mon sens, il y a un malentendu quand on dit la publicité ou le marketing suscite des nouveaux désirs ou nous fait désirer des choses dont on n'a pas besoin. C'est nous qui désirons spontanément des tas de choses.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'être humain, c'est un être, ce que tu disais, c'est un être de désir, donc il a besoin de désirer. Donc, quelque part, on a envie d'être manipulé, c'est ça que tu es en train de dire ou...
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une énergie, voilà, il y a une énergie désirante qui existe déjà et que la publicité a simplement l'habileté de récupérer et de concentrer sur tel ou tel objet. Alors, à mon avis, on peut lui faire le procès de vouloir le concentrer sur tel ou tel objet, mais on ne peut pas lui faire le procès de créer du désir inutile, en un sens. Voilà. Parce que, en réalité, ça, c'est nous. C'est notre problème à nous. On n'a pas besoin de la publicité pour se rendre compte que, quand on est au boulot, en fait, on désire avoir le poste d'à côté où on voudrait être mieux traité comme le collègue qui est là. Finalement, dans les relations finalement amoureuses aussi, on est toujours plongé dans ces dilemmes de désir-là où on est à la fois heureux de la personne avec qui on partage notre vie et puis en même temps on regarde aussi toujours voilà à côté on peut
et puis on a envie de ressentir ce désir
et de ressentir on a envie en fait de désirer et d'être désiré voilà donc en réalité c'est ce que le philosophe Sartre appelle la mauvaise foi, c'est quand en fait on ne se reconnaît pas désirant et quand on ne reconnaît pas qu'on aime être désiré, voilà, il appelle ça la mauvaise foi. En fait, très souvent, on est de mauvaise foi à l'égard de nos désirs et comme on se sent du coup un peu fragile ou un peu responsable de ces désirs-là, on accuse facilement la publicité ou le marketing, mais qui ne sont en fait que des révélateurs.
Et du coup, donc, ce qu'on est en train de se dire, c'est que quand même les marketeurs, c'est des manipulateurs.
Ouais.
Est-ce que ça, alors je ne sais pas
et
si...
Et comme on dit qu'un physicien expérimental en laboratoire manipule.
C'est vrai. Est-ce qu'on peut poser une valeur sur cette manipulation? Est-ce que c'est bien ou c'est mal dans la société judéo-chrétienne? Alors, on n'est pas tous judéo-chrétiens, mais la société française, elle est malgré tout majoritairement judéo-chrétienne. Est-ce qu'il y a une notion de bien ou de mal dans la manipulation?
En fait, oui, il y a une notion de bien et de mal dans la manipulation. On a un principe tout simple, c'est philosophe Emmanuel Kant, là, fameux type de la raison pure,
on le connaît tous.
Voilà, il a écrit un tome 2 qui s'appelle La critique de la raison pratique, dans lequel Kant dit quelque chose de très simple. Il dit, voilà, le fait que les hommes soient des hommes leur confère une dignité. Comment on donne un contenu concret à ce que c'est que la dignité? Eh bien, en fait, la différence entre un être qui a de la dignité et, par exemple, cette chaise ou cette table, qui sont des objets qui n'ont pas de dignité, c'est qu'un être qui a de la dignité, on ne peut pas s'en servir comme d'un moyen pour obtenir quelque chose.
D'accord.
Tandis que la chaise, je peux m'en servir pour m'asseoir dessus, etc. Mais je ne peux pas utiliser un autre être humain à mes fins personnelles. Voilà,
c'est pourtant, ça. Les gens le font tout le temps, ça.
Et pourtant, les gens le font. Alors, quelle est la limite à ça? La limite à ça, c'est la contractualisation, c'est l'information. Une publicité, ou un discours publicitaire qui ne se présenterait pas comme tel, qui jouerait sur son ambiguïté, par exemple sur la confusion avec un discours d'information ou un discours politique.
Vous avez parlé des publics rédactionnels, par exemple.
Voilà. Mmh. Là, on est dans une forme de manipulation qui est suspecte parce qu'en fait, elle est dissimulée. Voilà. En revanche, quand on est devant la télévision et qu'il y a un écran spécifique qui dit « attention, pub », puis des pubs, et un écran qui termine en disant « c'est fini la publicité », ça me paraît difficile de parler de manipulation. Ou alors, on parie vraiment sur la bêtise du téléspectateur. On informe, on dit au téléspectateur qu'il y a de la pub maintenant. Donc, on ne peut pas être manipulé par quelque chose dont on est conscient.
Sur le web, c'est beaucoup moins vrai. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelait les publics rédactionnels, qu'on appelle maintenant, c'est plus moderne, du native advertising. Mmh. Mais tu as aussi, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, dans ton feed d'informations, de la pub qui arrive, qui ne sont pas dans des... Avant, la publicité, par exemple, sur Google, était dans des colonnes qui étaient spécifiques. Donc, c'était sur le côté droit sur Google. Maintenant, les premiers résultats de recherche au centre sont de la publicité, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. La pub est passée, pareil, sur Facebook, du côté droit au feed. Donc, du coup, il y a quand même ce mélange des genres sur le web de la publicité. Et puis, il y en a beaucoup aussi. Il y a une forme d'infobésité, ou en tout cas de publibésité, je sais pas comment appeler ça, où on en reçoit beaucoup, tu reçois beaucoup d'emails, il y a beaucoup de ce qu'on appelle du retargeting, donc des publicités qui arrivent parce que tu es allé sur une page web, etc., etc. Est-ce que ça rentre dans le même cadre?
Moi, il me semble que là, on est dans une forme de confusion entretenue. Alors, qui à la fois est embêtante parce que quand elle porte sur des sujets importants, par exemple des questions autour de la santé, sur les médicaments, sur des etc. Là, on entre dans toute la suspicion, des conflits d'intérêts. Sur il suffit par exemple de parler des vaccins pour que tout de suite.
Et là, on rentre plus dans le lobbying carrément.
Voilà, exactement. Et donc là, on est dans une forme de confusion qui est embêtante. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu comme le gendarme et les voleurs, c'est-à-dire que il me semble que dès que cette publicité ou ce marketing adopte une sorte de nouveau comportement, finalement, l'utilisateur, nous, là, derrière notre fil Facebook, etc., passer peut-être les quelques semaines, ou peut-être le mois ou deux mois, où on est un peu surpris en disant « tiens, qu'est-ce que c'est que ce contenu ?» etc. En fait, on apprend ce nouveau langage et on apprend à distinguer, à repérer. Peut-être pas tout le monde, pas aussi vite, etc. Mais j'ai l'impression que finalement, un nouveau langage publicitaire, comme il doit de façon se soucier d'être compris, génère ensuite un nouvel apprentissage. Donc ça m'inquiète pas énormément. D'autant que il y a quand même un truc qui reste, c'est que quand le message est créatif, pertinent, amusant,
divertissant,
en réalité, on le suspecte plus du tout d'être manipulateur. Et au contraire, on est même capable de le reprendre à son propre compte et d'en être soi-même le diffuseur. C'est finalement le principe de la viralité.
Bien sûr. Ouais.
Voilà. Et donc, ça nous est tous arrivé de dire, tiens, comme on dit, tiens, regarde, en ce moment, je regarde une série super, ça nous est tous arrivé de dire, et t'as pas vu la pub de, ou les affiches de, ou la campagne de trucs, ou sur son fil Facebook, de partager une vidéo, voilà. Donc, en fait, on peut pas, se plaindre d'une manipulation, que la publicité serait essentiellement de la manipulation, et qu'on serait des cibles, victimes, etc. Et d'un autre côté, au contraire, exercer une forme
être un acteur, finalement.
Voilà, être un acteur et diffuser ces messages-là. En fait, je pense qu'on est... C'est un peu comme la séduction dans la vraie vie, en fait. Voilà, on est dans un contexte de drague.
Ouais.
Voilà. Et on est au-delà d'histoires de consentement, et aussi quand ça devient lourd, etc., on a envie de sortir de cette relation. Mais il y a quelque chose qui est aussi très pétillant dans la séduction, le jeu, la rencontre, essayer de capter l'attention de l'autre, de lui plaire. Et c'est ce que les marques les plus habiles arrivent très bien à
faire. Mais en fait, finalement, ce que tu dis, c'est qu'on a envie d'être séduit. Donc
Oui, je pense. Parce que, en fait, c'est tout simple. On a envie d'être séduit, pourquoi? Parce que si on est séduit, c'est qu'on est séduisant. Si on est aimé, c'est qu'on est aimable. Voilà. Et je reviens à mon Baudrillard de tout à l'heure. Dans un autre bouquin qui s'appelle Le système des objets, Baudrillard fait une distinction que moi j'ai toujours trouvé hyper, hyper intéressante. Il dit, en fait, le message publicitaire, c'est comme une carte postale. Le contenu importe peu. Quand je reçois une carte postale l'été, bon, on en reçoit de moins en moins, mais quand on les recevait...
Mais ça fait maintenant beaucoup plus plaisir.
Voilà, mais, non, mais exactement. En fait, il dit le contenu de la carte postale, c'est assez peu intéressant, salut, il fait beau et chaud, je suis sur la plage, je me baigne tous les jours, j'espère que tout va bien, bisous, je t'embrasse, voilà. Mm-hmm. Voilà. Donc le contenu est assez peu prévisible. Le contenu du message publicitaire, c'est de dire cette voiture est formidable, cet ordinateur est génial, achetez-moi, etc. Mm-hmm. Donc ça nous intéresse assez peu. En revanche, le fait de recevoir la carte, voilà, l'indice, en fait la carte devient du coup l'indice, Baudrillard dit l'indicatif d'une relation, parce qu'on n'envoie pas des cartes postales à tout le monde. Et donc, le fait de recevoir cette carte, ça fait plaisir. Eh bien, le fait de recevoir une publicité qui est bien emballée, qui est bien adressée, c'est pour ça que c'est intéressant de bien cibler aussi, voilà, qui est bien emballée, bien adressée, avec un joli paquet, eh bien, en fait, ça veut dire que cette marque, elle tient à nous, potentiels consommateurs. Et ça fait plaisir, au fond. Et donc, enfin, ce que tu dis, c'est, quand on dit on a envie d'être séduit, dans ce cadre-là, je crois que oui, on a envie d'être séduit. On a envie, finalement, c'est toujours agréable de savoir qu'on pense à nous. Mais on faut le faire avec délicatesse et retenue, et créativité, mais ça, certains le font extrêmement bien.
C'est ça. Et derrière, il y a un sujet qu'on ne va pas aborder là, parce qu'on n'a pas le temps, mais qui est l'éthique, évidemment, avec l'utilisation de la data, mais je pense qu'on aura l'occasion de,
oui,
de faire un autre podcast sur l'éthique, sujet, parce que ça sera un autre sujet. Et alors, du coup, ce podcast, il s'appelle Vlan. À qui ou à quoi tu voudrais claquer la porte aujourd'hui ?
Mais tout simplement à cette idée selon laquelle la publicité nous manipule. Voilà. Parce que si on me dit que la publicité me manipule, ça veut dire que je suis en fait finalement une sorte de pantin. Je suis aisément manipulable. Mmh. Or, comment dire, à moi d'exercer finalement mon jugement critique et ma responsabilité à l'écart des messages qu'on m'adresse. Parfois, il y a une confusion qui est entretenue, mais là encore, je peux être acteur de la dissipation de cette confusion.
Génial. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Vlan, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.